Bonjour et bienvenue dans ce podcast Les lois de l'attraction. Je suis François-Xavier, alias FX, et je baigne dans l'univers du recrutement depuis plus de 10 ans, et dans le grand bain, celui de l'hôtellerie-restauration. Depuis mes débuts en 2006, beaucoup de choses ont changé. En quête de sens, candidats et collaborateurs attendent des entreprises qu'elles les fassent progresser, eux et la société. Savoir placer l'humain au cœur de la stratégie d'entreprise est devenu un critère de réussite. J'ai décidé de créer ce podcast pour aller à la rencontre de dirigeantes, DRH, de directeurs recrutement et de voir quelles sont leurs stratégies qui leur permettent d'attirer, de fidéliser et d'inspirer les collaborateurs. C'est parti pour ce podcast autour des lois de l'attraction.
Alors, je dis merci de nous recevoir, Sébastien. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours et Juno?
Oui, avec plaisir. Alors, moi, je suis tombé dans l'immobilier un peu comme Obélix dans la potion magique, tout petit, puisque ma mère avait une agence immobilière. Elle a fait autre chose avant, elle était industrielle avec mes grands-parents. Ils ont revendu leur... Mon grand-père était inventeur. Il avait breveté un procédé particulier pour fabriquer des dossiers suspendus. Un dossier suspendu, c'est un truc qui, à mon avis, n'a pas un avenir flamboyant devant lui, mais à l'époque, c'est ce qui permettait de classer les trucs dans les... Tu tirais,
tu avais les tiroirs.
Et donc, il était assez inventif, inventeur. Il a inventé un procédé qui permettait de réduire le coût de production. Et il s'est retrouvé avec une entreprise qui, je crois, était parmi les leaders en Europe de ça. Et donc, ma mère a travaillé avec lui. Et puis, dans les années 80, ils se sont aperçus qu'ils avaient beaucoup d'investissements à faire et que soit ils prenaient une proportion qui était gigantesque et ils n'ont pas voulu y aller. Ils ont vendu. Et ils ont commencé à faire de l'immobilier en achetant des jolies choses, principalement à Montmartre, parce qu'en fait, on est à Montmartre depuis 6 générations, puis aussi un peu dans le sud de la France. Sur ce, les années 80, 90, crise de l'immobilier. On a oublié, mais les prix ont baissé pendant plusieurs années. Aujourd'hui, ça paraît surréaliste, mais les prix de l'immobilier ont baissé pendant 4-5 ans. Début 90 et jusqu'à quasiment la fin de la décennie.
Okay.
Et donc ils avaient un bureau qui s'appelait Juno Investissement, qui était avenue Juno à Montmartre, et qui était un bureau de marchand de biens en fait. C'était pas du tout une agence immobilière. Mais dans le quartier, depuis longtemps, il y a une très jolie clientèle avec des gens, pas mal de gens des métiers de l'art, du show business, etc. Et donc, ils passaient. Le fait est que ma mère en connaissait un certain nombre. Et puis, ils faisaient part de leur recherche. Le truc, tiens, tu connais pas, toi qui habites là. Bon, bref. Et bon an, mal an, comme ça, au fur et à mesure, ça s'est transformé en agence immobilière. Et donc moi, à l'époque, j'étais tout jeune, mais j'ai commencé à aider ma mère. Le week-end, j'allais travailler, j'allais faire du boitage, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de la prospection, mettre des petits...
Parce que ma grand-mère... Ma grand-mère était... Est-ce que vous voulez vendre ?
Exactement. Ouais. Mais c'était un peu... Ma grand-mère était dessinatrice, et donc elle faisait des petits tableaux de Montmartre. Et donc on prenait ses dessins qu'on mettait en petite carte postale et on faisait des flyers dessinés par ma grand-mère. Donc c'est vraiment fait maison. Voilà. Et donc moi, j'étais là-dedans. J'ai fait Dauphine. Et assez rapidement, je suis arrivé à plusieurs conclusions. C'est que j'avais plutôt envie de monter un truc, d'avoir ma boîte, pour tout un tas de raisons.
Pour ne pas travailler avec la famille en direct, peut-être parfois, c'est pas forcément évident.
Alors, justement, on a travaillé ensemble. Donc, c'était pas tellement. Non, c'était plutôt que je me suis aperçu, mais c'est mon expérience et elle n'engage que moi, mais. J'ai travaillé dans quelques sociétés un peu plus grandes et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de politique, qu'il y avait beaucoup de déperdition d'énergie. Et en plus, j'étais pas bon à ça. Et bon, ça fait partie des choses qui ont fait que je me suis dit, tiens, j'ai plutôt envie de monter un truc et puis avec une bonne ambiance et où on va reconnaître ce que font les gens pour leur job et pas parce qu'ils connaissent le patron, ou qu'ils sont sympas, ou qu'ils partent le soir à 20h30 et que le patron a vu qu'ils étaient restés jusqu'à 20h30. Voilà. Bon, ça fait partie des...
Tu avais envie de quelque chose en dehors des règles.
En tout cas, j'ai vu ça et j'ai vu qu'il fallait être politique dans des grosses boîtes pour réussir et que ça ne me plaisait pas du tout.
Okay.
Et voilà, ça c'est une chose. Et l'autre chose, mais c'est le plus important, c'est que je voyais ce métier d'agent immobilier qui était très désorganisé, très atomisé, avec beaucoup, beaucoup de toutes petites agences qui étaient vraiment très très, comment dire, artisanal. Et je me suis fait assez vite la conviction. Alors, je suis parti à Londres, je suis allé aux États-Unis pour voir un peu comment ça marchait là-bas. Je me suis dit, vraiment, on peut améliorer les choses. Et donc, j'ai fait Dauphine, j'ai fait une maîtrise de finance. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un DESS, maintenant, je crois qu'on dit un master d'immobilier, avec Laurent Batch, qui était le directeur de Dauphine. Et voilà, et assez rapidement, j'ai rejoint la toute petite entreprise familiale où il y avait 4 personnes, avec dans l'idée de la développer.
Ça, c'était en quelle année?
Ça, c'était en 2006.
Ok. Ouais.
En 2006-2007. Et voilà. Et puis, donc, on a grandi. On était 4-5 et maintenant, on est un peu plus d'une centaine. On a une croissance chaque année qui est autour de, depuis 5-6 ans, autour de 25% par an.
Qu'est-ce que tu as fait au démarrage? Tu disais, à l'époque, c'était un peu artisanal, donc il n'y avait pas encore les grands acteurs immobiliers.
Très peu.
Ou peu.
En termes de marketing, c'était assez artisanal. En termes de méthode de travail, c'était aussi un autre monde. Mmh. Franchement, quand je regarde dans le rétroviseur, c'était
quoi?
D'abord, il n'y avait pas d'outils informatiques, digitaux, comme on a aujourd'hui, évidemment. Mmh. Tout était en papier, c'était assez lent. L'information n'était pas, accessible et transparente. Donc, c'est un autre monde.
Parce qu'on mettait les annonces dans les journaux spécialisés,
ou
tu venais voir devant l'agence
tout ce que tu as regardé devant l'agence. Mais alors, ça, ceci dit, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais l'aspect local et le fait de voir les choses dans les agences, ça reste d'actualité, parce qu'on fait un métier qui est très digitalisé d'un certain côté. On passe par des portails, par notre site, c'est essentiel. Et en même temps, on fait un métier très local, puisque notre métier, c'est de vendre et de louer et de gérer des biens immobiliers. Mais de gens qui sont dans un endroit, quoi, dans un lieu. Et c'est vrai que dans la culture française, par exemple, tu vas aux États-Unis ou tu vas en Allemagne ou en Suisse, les agences immobilières sont en bureau. Donc tu vas dans les rues.
C'est en bureau, c'est-à-dire qu'il
n'y a pas. C'est dans les étages, quoi. Dans la rue.
C'est pas une boutique.
C'est pas une boutique. Et en France, tu vois, le nombre d'agences immobilières qu'il y a un peu partout, d'ailleurs, à mon avis, un peu trop, c'est très culturel. Et c'est pas un hasard, c'est parce que c'est une demande des clients, c'est une demande des Français. Dans la mentalité française, on a besoin d'avoir un peu un commerce, un local où on va et qui est près de chez nous. Et d'ailleurs, il y a pas mal de modèles, notamment étrangers, qui ont essayé de s'implanter en France sans avoir d'emplacement physique. Ça marche très bien dans certains coins en province, puisque si tu travailles dans un endroit qui est pas centralisé, c'est vrai que l'emplacement physique a moins de sens et tu vas très bien travailler avec des gens qui sont indépendants et qui travaillent de chez eux. Dans les grandes villes, force est de constater que tous les gens qui ont voulu s'installer sans emplacement physique ont fini par en ouvrir beaucoup. Voilà.
C'est latente. Non, mais après.
J'ai un peu divergé.
Oui, mais ça, je pense que ça expliquera aussi le développement que tu as eu ou certains choix.
Donc l'idée, c'était il y a un marché, il y a des choses à faire sur ce marché. Mmh. Et moi, ce qui me drive, en fait, c'est d'essayer de faire les choses différemment et d'apporter une vraie valeur ajoutée aux clients, enfin aux gens qui font appel à nous.
Et donc les étapes depuis 2006, tu disais revoir un peu les méthodes de travail. Qu'est-ce que tu as pu
déjà, apporter, concrètement, ce qu'il y a, changer. C'est que moi, j'ai fait beaucoup de terrain. En fait, j'étais agent immobilier, j'ai été pendant plusieurs années. Je m'occupais de mes clients. Ensuite, j'ai commencé, je crois, 2 ans après, à diriger une agence. Et puis ensuite, j'en ai monté plusieurs. Et à chaque fois, je restais 1 an sur place pour la lancer. Et ensuite, je passais à une autre. Et puis, arrivé à un certain stade, tu peux plus, avec 15 endroits, tu peux plus passer 1 an sur place à t'occuper d'une agence. Donc, il a fallu qu'on scale et qu'on fasse différemment.
Donc, c'était toi toutes les nouvelles agences.
Exactement. En tout cas, j'en prenais la direction commerciale. Mmh. Et donc, j'accompagnais les équipes qui étaient recrutées et qui commençaient à travailler avec nous.
Et comment on crée une agence? Parce que tu disais justement, s'ancrer un peu dans la vie locale. Donc toi, t'arrivais, tu t'immergeais dans le quartier. Il y a ce côté commerce de proximité, donc il faut connaître les gens, qu'on vienne te dire ce que les gens cherchent et que tu saches ce qui se vend. Ou...
Exactement. Alors c'est un très beau métier parce que c'est un métier alors, relativement mal perçu et parfois à raison. Et en même temps, d'abord, on parle d'enjeux qui sont très importants à plusieurs titres. On parle d'enjeux d'argent très importants parce que on vend. Alors, en plus, nous, on a un positionnement plutôt de gamme, mais bon, c'est vrai dans tous les cas. Mais on vend des appartements à 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions. C'est des enjeux financiers qui sont majeurs pour nos clients. Ce sont des particuliers, donc la plupart du temps, c'est la vente de son appartement, c'est le plus gros enjeu financier de sa vie, quasiment, hein, pour beaucoup de gens, premièrement. Et par ailleurs, c'est un enjeu émotionnel qui est énorme. Nous, on est, des gens en divorce, des gens vont avoir un enfant, on est au courant avant tout le monde, en fait. Les gens viennent dans notre bureau et disent ben voilà, je suis enceinte, donc il va falloir qu'on change, il nous faut une chambre de plus. Bon, personne n'est au courant, il faut qu'on commence à regarder. Voilà. Donc on rentre dans une intimité qui est très forte. Et l'immobilier, l'appartement, enfin, le lieu où on vit, surtout les résidences principales, parce que c'est vrai qu'à Paris, on est sur un marché principalement de résidences principales, les gens y sont très très attachés et c'est une espèce d'extension d'eux-mêmes. C'est pas. Un truc que tu as et tu as acheté, tu as des fringues et tu les revends, c'est vraiment chez toi, tu as vécu souvent des choses très importantes, donc c'est une extension de toi-même. Quoi.
Ça, cet attachement-là, comme tu disais, au niveau culturel, en plus, il est très différent. Les anglo-saxons l'ont très peu, ils peuvent déménager
les
très
rapidement. Les anglais un peu, les américains beaucoup
ouais,
moins.
Plus, je pense plus aux voilà. Américains. Plus.
Les américains, surtout dans certaines régions, et voilà, l'immobilier, c'est 2-4 planches en bois, je caricature, mais...
c'est du consommable, quoi.
Oui, il y a un attachement qui est beaucoup moins fort. Et puis nous, en plus, on est dans Paris, c'est la vieille pierre, c'est les immeubles haussmanniens. Culturellement, on est très attaché à notre habitat. Donc on est sur un métier qui est avec des enjeux très forts, et d'argent, et d'émotionnel. Et donc c'est très gratifiant, parce que quand on fait bien notre métier, ça veut dire qu'on va avoir... un vendeur dont on s'est bien occupé, qui a bien vendu son bien, un acheteur qui est super content parce qu'il a trouvé le lieu de ses rêves, ou si on parce qu'on fait aussi de la location, ou un propriétaire et un locataire qui sont contents. Et donc il y a une reconnaissance du travail qui est fait, de négociation, de mise en valeur des biens, qui est vraiment sympa.
Et pourquoi il est mal perçu alors? Parce que c'était ça le début, tu dis il est mal perçu et parfois à raison.
Alors,
pourquoi les gens ont raison, en tout cas, de ne pas aimer l'agent immobilier ?
Je vais te dire un truc, est-ce qu'on peut tout dire, je ne sais pas.
On peut tout dire.
Les agents immobiliers sont mal perçus, à tort et à raison. À tort parce que les gens voient des émissions comme sur M6 ou d'autres plus récemment, et un certain nombre de gens se disent oh, « agent immobilier, le mec, il se balade, il rencontre des gens, il va faire une visite, il prend un billet de X milliers d'euros, la vie est belle. » Donc ils ont l'impression que c'est très facile et qu'on gagne beaucoup d'argent. Ce qui n'est pas vrai du tout, parce que c'est un métier qui est très dur, qui demande énormément d'efforts, et que certains gagnent bien leur vie, et c'est notamment le cas chez nous, parce qu'on y travaille et qu'on a un positionnement qui permet à nos collaborateurs, certains, de bien gagner leur vie, mais l'immense majorité des agents immobiliers en France n'ont pas du tout des revenus qui sont importants. Donc cette vision-là, elle est due à tout un tas de choses, et puis c'est aussi dans l'état d'esprit français, le service est souvent perçu comme quelque chose qui n'est pas forcément utile ou qui n'est pas justifié, très différent de l'état d'esprit anglo-saxon d'ailleurs. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est une vision un peu à tort. Là où ils ont raison, et à la limite, ils n'imaginent pas ce qui se passe, c'est jamais bien de cracher dans la soupe et de parler de ses confrères, mais moi, je suis obligé de le dire parce qu'en fait c'est quelque chose qui me choque depuis des années et qui me choque au quotidien. C'est le degré de malhonnêteté, consciente et pas consciente d'un certain nombre d'acteurs dans notre métier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font ce métier pour essayer de gagner de l'argent, pour faire des deals, et qui ne s'intéressent pas du tout à la satisfaction client, qui ne s'intéressent pas à leurs clients en fait. Et ça, en fait, les gens n'ont pas idée en France du niveau que ça prend. Et souvent, les gens vont choisir un prestataire en fonction du fait qu'il soit sympathique ou pas, en fonction du fait qu'il ait une jolie agence ou pas. Voilà. Et c'est des critères. Alors, parfois, elle vient de la recommandation. Mais je suis surpris de voir que des gens, des confrères qui sont sans foi ni loi, qui respectent pas les lois, qui travaillent sans mandat de vente, alors qu'on est une profession réglementée assez strictement d'ailleurs par la loi Hoguet, qui mentent en permanence à leurs clients. En fait, ces gens-là sont toujours là.
Côté vendeur de tapis, quoi. Sans dénigrer les vendeurs de tapis. Mais oui, après, c'est vrai que toi, tu commences en disant il y a un enjeu émotionnel. Alors, je me trompe peut-être et je connais peut-être pas assez bien le secteur, mais je pense pas que vous soyez une majorité à employer ce terme-là. Tout le monde en a plus ou moins conscience, parce qu'évidemment, tu te rends compte que tu rentres dans la vie des gens, mais soit tu respectes ça et ça influe sur la façon de faire ton boulot, soit le côté financier et le côté justement faire le maximum d'argent pour le minimum d'effort, bah, c'est plutôt ça le driver, quoi. Après.
Ouais. Oui, mais nous, notre ADN, c'est vrai que moi, ma mère, avec qui j'ai créé cette société, elle vient de l'industrie. Moi, j'ai une formation plutôt entrepreneuriale, avec des études de finance. On n'est pas des commerçants, en fait. Enfin, on se retrouve à faire un métier plutôt commercial, mais on n'est pas des commerçants. Et vraiment, la vision, c'est de dire la vérité, de rendre service à nos clients. Et on ne fait rien sans que ça réponde positivement à ces critères-là. Et en fait, et c'est vrai que un certain nombre de gens dans ce métier ont pas ce prisme. Ils ont le prisme, voilà, je fais une vente. Donc je te donne un exemple très concret que personne ne sait, enfin, les gens ne savent peu. Les gens regardent le positionnement de l'agence. Est-ce que vous faites du luxe? Est-ce que vous avez des beaux biens? Mais c'est tellement important de choisir des gens qui vous comprennent et qui sont réglo. Et qui veulent vous rendre service. Un exemple très concret et que nous, on voit de manière régulière. Notre métier, en tout cas en ce qui concerne la vente, c'est un propriétaire qui vient nous voir, qui nous dit, bah, écoutez, je voudrais vendre mon appartement parce que je veux partir en province, en ce moment c'est d'actualité, ou mille et une autres raisons, et puis je voudrais vendre mon appartement, évidemment, au meilleur prix possible, et aussi dans les meilleures conditions possibles de sérénité, de délai, etc. Donc il y a une espèce de package. On discute ensemble. Il y a une connaissance marché qui fait partie de notre métier, qui est d'être capable. Aujourd'hui, tu peux déterminer le prix d'un appartement en ligne. Tu as plein de sites qui le font. Nous, sur notre site internet de Juno, tu peux estimer en ligne ton appartement ou ta maison. Et ça reste une approximation.
C'est un appart.
Voilà.
Enfin, c'est du market. Non.
C'est du market, clairement. Oui, c'est du market.
C'est d'entamer le process avec voilà. Je t'apporte quelque chose.
Exactement.
Et du coup, tu crées
ça
une,
donne
là,
une
tu
idée.
Un lien.
Si tu connais vraiment rien, ça te donne une idée vague. Mais après, si tu veux vraiment bien pricer ton appartement, ce qui est très important, parce que, bon, pas rentrer dans le détail, mais le prix, c'est très important parce que ça te positionne comme il faut sur le marché. Si tu n'es pas assez cher, bah, évidemment, tu fais une perte parce que tu ne vends pas assez cher. Et si tu es trop cher, tu peux aussi perdre beaucoup de temps, galvauder ton bien, etc. Non. Et le fait de bien pricer, ça demande vraiment une connaissance. Parce que l'immobilier, ce n'est pas une commodité comme une action. Ce n'est pas standard. Et même si on a des stats, chaque appartement, même dans un même immeuble, même au même étage, il va valoir, il peut avoir des différences de prix qui sont sensibles en fonction de la luminosité, en fonction du feeling, en fonction de la décoration, du plan. Voilà. Et donc il y a tout un tas de critères qui font que il faut vraiment des gens qui ont un track record, pardon, j'ai employé des mots français, mais qui ont une expérience, qui font beaucoup de ventes, des vrais professionnels, ouais. Pour être capable de dire, ok, moi j'ai vendu juste en face à ce prix-là. Celui d'en dessous, il est en vente depuis 4 mois, un truc. Donc je sais exactement que là, à ce prix-là, on va être trop cher. Là, on ne vend pas au maximum, là, on est au bon prix. Donc, cette fixation du prix, elle est très importante. Et notre métier, c'est de donner cette information aux vendeurs et ensuite de mettre en valeur, par tout un tas de moyens divers et variés, et puis notre réseau aussi, cet appartement. Et bon, si tout se passe bien, on va le proposer à des gens, on va le faire visiter, ça va prendre un temps X, et puis peut-être qu'on aura une offre, à un moment donné, ou un acheteur qui va se positionner.
C'est vrai que dans ce moment-là où tu fixes le prix, là, il y a deux intérêts tout petit peu divergent, mais c'est que le vendeur, il veut vendre au prix le plus maximum haut qu'il puisse espérer, quitte à prendre un petit peu plus de temps. Et forcément, même chez vous, j'imagine que l'agent, il se dit,
bah, si c'est moins cher,
plus ça va vite, ouais. À peu de choses près, si je le mets juste en dessous, ouais. Je vais pouvoir faciliter les choses.
Oui,
alors, faciliter, en plus, ça peut...
Parfaitement raison. En théorie, c'est vrai. Dans la réalité, ce n'est pas du tout ce qui se passe, c'est même plutôt l'inverse, okay. Puisqu'on a un problème en France, et notamment dans l'immobilier haut de gamme, c'est la surestimation. C'est-à-dire que c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'agences. Tu vends un appartement, c'est le plus gros deal de ta vie, c'est une extension de toi-même. Si tu as quelqu'un qui vient te voir et qui te dit « Ah, votre appartement, il est très bien, je pense qu'on peut le vendre à 1,5 million. » Parce que ça. Et puis derrière, tu as quelqu'un d'autre qui vient qui dit « Ah, votre appartement, il est sublime. Je sors mon doigt, attendez. Ah, je pense qu'à 1,8 million, on peut le vendre. Puis j'ai un client qui vient de Singapour qui peut peut-être vous l'acheter. » À ce moment-là, tu as beau être PDG du CAC 40, tu as beau, avoir 250 de QI, c'est très compliqué d'être rationnel. Et ça, malheureusement, bah, certains nombre de professionnels le savent. Et donc, problème de surestimation, c'est-à-dire que les gens vont chez les propriétaires et surestiment les appartements. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que s'ils surestiment, le propriétaire peut-être va plus leur faire confiance et donc va leur donner un mandat de vente versus l'autre professionnel qui aura donné le vrai montant auquel ça va se vendre, auquel il faudra le mettre en vente pour bien vendre, mais c'est en dessous. Et donc c'est exactement l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'on a un problème de surestimation en France, d'agences qui donnent des prix trop élevés. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas le vendre à ce prix-là, mais c'est un moyen, comme tu disais tout à l'heure, c'est un moyen de rentrer de mettre le pied dans la porte. Et une fois que tu as mis le pied dans la porte, la logique rationnelle voudrait aussi que si tu ne le vends pas au prix promis, le vendeur te dise « Attendez, vous êtes un peu moqué de moi, je vais prendre l'autre ». Mais la réalité, c'est que ça ne se passe pas comme ça, parce que c'est un peu le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que le vendeur sait, grosso modo, il sait que, bon, type, il a essayé, mais il s'est dit « Ah, peut-être que ça aurait pu réussir ». Donc, il y a une espèce de relation qui se crée où ça va être très difficile ensuite de revenir voir l'autre agent qui t'a dit la vérité, parce que c'est aussi une façon de te déjuger, tu vois, de dire « Bah, en fait, vous aviez raison, j'étais un peu con ».
Ouais, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent faire ça.
C'est compliqué. Non, mais c'est vrai. Donc, la réalité, c'est que la surestimation est pratiquée de manière très importante, surtout dans l'immobilier haut de gamme. Et du coup, moi, je me réjouis qu'on ait beaucoup plus d'infos qu'avant, de transparence, que les bases de données de l'État aient été mises publiques, parce que ça permet de donner de l'info. Et j'espère que grâce à ça, de plus en plus, on va avoir un pricing qui soit...
Où tu peux aller consulter les prix par quartier.
Aujourd'hui, tu as accès à tous les prix de vente.
Toutes les dernières ventes.
Alors voilà, ça va te donner une idée pas précise, parce qu'encore une fois, tu ne vois pas ce que c'est. Donc, on te dit, oui, au quatrième étage, ce truc-là, ça s'est vendu, mais... Est-ce qu'il était beau? Est-ce qu'il avait une belle hauteur sous plafond? Est-ce qu'il avait un plan parfait?
T'as un faisceau d'indices.
T'as un faisceau d'indices beaucoup plus précis. Donc, pourquoi on parlait des prix? Parce que c'est très important. Et ensuite, on parlait de l'offre. Et on parlait de la perception du métier. Tu as des agences immobilières. Ça existe aujourd'hui. Pour l'instant, moi, j'en fais rien, mais j'aimerais m'impliquer... avec un certain nombre de syndicats qui, je dois le dire aussi publiquement, ne font pas forcément leur métier, en défendant l'éthique dans notre profession, qui n'est pas assez soutenue. Tu as des agences immobilières, et d'ailleurs, si tu as visité un appartement, ça a dû t'arriver, tu vas visiter un appartement à, j'ai n'importe quoi, 500 000 euros, et puis tu n'es même pas rentré dans l'appartement que l'agent immobilier te dit « Oh, il est à 500 000, mais bon, vous pouvez faire une offre à 450, ça va passer ». Je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais je pense que c'est un truc courant. Chez nous, c'est impensable. Pourquoi ? Parce que c'est le vendeur qui m'a signé un mandat de vente. C'est toi, en tant que vendeur, tu es venu me voir, tu m'as dit « Monsieur, je voudrais vendre mon appartement, on se met d'accord sur un prix, on y va. »
C'est le vendeur, le client ?
Bah, c'est le vendeur, le client, bien sûr. Et l'acheteur, on s'en occupe très bien, mais pour satisfaire le vendeur. Et donc, si contracter avec un vendeur qui t'a mis dans un mandat, voilà, je vais te payer 5% d'honoraires pour vendre mon appartement à 500 000 euros, et la première chose que tu fais, c'est d'aller voir l'acheteur et lui dire non, mais en fait, il a marqué 500 000, mais fais une offre à 450 000. Pour nous, c'est impensable.
Il est en train de divorcer, vas-y, il faut que ça aille vite.
Il faut que ça aille vite. Mais ça, je t'invite à aller visiter, tu vas voir que deux fois sur trois, c'est ce que tu vas avoir. Et donc là, on est vraiment dans cette, moi je trouve, cette incompréhension par les agents immobiliers de leur positionnement. Et la nature de leur métier.
Et comment on fait respecter l'éthique, ou comment il faudrait faire pour que l'éthique soit respectée?
Donc, tu dis que d'abord, les syndicats, pratiquement, ça, on devrait avoir des syndicats qui sont beaucoup plus rigides là-dessus, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent...
Des contrôles, avoir des labels...
Beaucoup plus de contrôles, les labels. Et après, je pense pas qu'il y ait grand-chose à faire. Après, c'est une question d'exigence du consommateur. Si le consommateur n'est pas attentif à ça, bah subsistent des comportements qui sont...
Parce que du coup, le consommateur, ou celui qui achète plutôt, lui, quand tu disais pour bien choisir un partenaire immobilier, donc il faut plutôt aller sur celui qui te fait
l'offre la plus basse. Force est de constater qu'aujourd'hui, par exemple, un vendeur, souvent, ils nous font venir, ils disent, voilà, je vais donner mon mandat à celui qui m'en aura donné le plus cher. D'abord, on ne donne rien du tout. On fait une recommandation de prix. Ce n'est pas nous qui allons acheter, c'est un acheteur. Donc c'est tellement facile, partant de ça, c'est tellement facile de surestimer. Ouais, écoutez, je sais qu'il vaut 1,5 million, mais bon, à 1,8 million, on va essayer. Déjà là, on est dans un, à mon avis, et c'est souvent le cas, dans une incompréhension de comment les choses vont vraiment se passer derrière. Je ne sais pas comment dire, c'est assez français, c'est très émotionnel.
Mais comment tu fais pour le détecter? Si toi, tu devais donner un conseil, alors pas sans dire il faut aller chez Juno, mais justement, quelqu'un qui veut vendre, qui est dans un coin où tu n'es pas,
moi, je le recommande.
T'es pas présent, comment tu vas aller voir 3-4 agences et qu'est-ce que tu dois poser comme question ou qu'est-ce que tu dois essayer d'avoir comme réponse pour faire un choix éclairé?
Moi, ma recommandation, c'est d'abord de plutôt passer par des grosses agences. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du tout une garantie, mais déjà, il y a du volume.
Qui appartiennent à un réseau, quoi. À grosses agences.
Ça peut être un indépendant qui est très bien implanté dans un endroit qui a beaucoup de volume. Ouais. Mais quelqu'un, c'est difficile parfois à savoir, mais dont on sait qu'il fait beaucoup de ventes, qui est très bien implanté, qui a une réputation, parce que ça va lui apporter ce volume, déjà, qui lui donne un knowledge, et puis un track record, et puis un réseau d'acheteurs derrière qui est implanté. Ça, c'est la première chose. Et ensuite de ça, c'est d'essayer de voir quels sont les gens qui sont honnêtes, quoi. Donc, qui sont recommandés. Si c'est possible. Essayer aussi d'être un peu malin en essayant d'être conscient de ce jeu qui se fait de surestimation et parfois de prêcher un peu le faux pour savoir le vrai. C'est vrai que c'est compliqué, hein, parce que de l'extérieur, les consommateurs, il a quoi? Il a l'image de marque. Mais l'image de marque, ce qui est projeté, ce qui est dépensé en marketing... C'est pas du tout la garantie d'un service de qualité derrière. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet pour notre profession. C'est que souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils vont avoir avant d'avoir testé. Donc, recommandation, réputation, le feeling aussi avec la personne qu'on a en face de nous, l'implication. Chose très importante, c'est l'effort qui est donné. Par exemple, une estimation. Tu as beaucoup d'agences immobilières, combien ça vaut? Ils te sortent un petit papier en te disant ça vaut 10 000 euros du mètre carré. Je pense qu'il faut que les gens soient beaucoup plus exigeants et qu'ils demandent un vrai dossier.
Sur le temps qui va être pris pour...
Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'engage à le faire? Et puis surtout, vous donnez un prix, mais basé sur quoi? Montrez-moi les références. Montrez-moi ce que vous avez vendu. Montrez-moi ce qui est en vente en ce moment. Ben voilà, que je comprenne pourquoi vous me dites ça.
Ok. Du coup, on a fait une bonne passe et on commence à bien comprendre la culture et ta façon de voir les choses. Et on va pouvoir basculer sur les sujets, mes sujets de prédilection. Non, mais, et du coup, pour garantir ça chez toi et tout au long de ta croissance, bah, j'imagine que tu as voulu... Alors, tu as dû te la forger, cette culture que tu voulais garder chez Judo et que tu voulais que tous tes collaborateurs respectent. Et comment on fait pour recruter des profils, trouver des gens? Déjà, comment tu détectes chez eux le fait qu'ils vont avoir le même respect que toi pour tous les enjeux dont tu parles? Et puis comment tu le contrôles, comment tu fais pour que ça puisse vivre à grande échelle? Déjà là, vous êtes 4, non, mais 4 personnes en 2006 à peu près, donc, parce que toi, tu t'es tout de suite frotté au recrutement. J'imagine quand tu recrutais, quand tu créais ton agence, il y avait trouver le meilleur emplacement et puis après trouver les meilleurs.
C'est le plus important. De toute façon, il n'est de richesse que d'hommes et dans notre métier, c'est vraiment ça. Hein. Nous, on vend un service, on ne vend pas de produit, on est intermédiaire. Et donc, notre produit, ce sont les gens qui travaillent chez nous. Et un négociateur immobilier, ça demande beaucoup, beaucoup de qualités, que les gens n'imaginent souvent pas d'ailleurs. Parce qu'il faut être à la fois extrêmement bon commerçant, il faut être un très bon négociateur, il faut être très organisé, il faut gérer beaucoup, beaucoup de choses à la fois. Il y a du juridique aussi qui rentre en jeu. Donc, trouver des bons agents immobiliers, c'est vraiment pas évident. Donc, pour répondre à ta question, tu me dis comment on trouve les bonnes personnes. D'abord, on prend du temps. Et ça demande... du coup, c'est vrai que... On a grandi, mais on a grandi progressivement parce que ça prend du temps de trouver les bonnes personnes pour nous accompagner.
T'as accepté de retarder ton ouverture prévue, d'accepter la date, pour avoir les bons.
Oui. Et par ailleurs, alors c'est un autre sujet, mais c'est aussi que nous, on veut aussi des gens qui soient heureux chez nous. Et ça implique aussi d'avoir un certain nombre de gens, mais pas trop. Parce que tu as des modèles comme ça qui fonctionnent.
Par agence, tu veux dire?
Oui, par agence.
Que ce soit pas. Voilà. Qu'il n'y ait pas de.
Tu prends les modèles d'agents mandataires, je ne sais pas si tu connais. Les agents mandataires qui se sont développés, ce sont des agents indépendants qui utilisent une marque, qui sont très indépendants. Ben, ces modèles-là, ils fonctionnent avec le volume. Donc eux, ils se fichent éperdument. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des milliers de personnes qui vont travailler, qui leur payent en plus d'ailleurs un abonnement chaque mois. Et qu'après, cette personne fasse un chiffre d'affaires famélique et qu'elle gagne moins que le SMIC en travaillant 8 heures par jour, en fait, c'est pas leur sujet. Mmh. C'est vrai que nous, on cherche à avoir des gens qui sont de grande qualité, qui ont beaucoup de qualité, qui puissent gagner correctement leur vie, notamment à Paris, parce qu'on est dans une ville qui est chère. Et voilà, donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, que tu regardes le Juno, tu as, on va dire, un peu moins de la moitié des gens qui viennent de l'immobilier.
Ok.
C'est-à-dire qu'on fait des formations immobilières, qu'on travaille dans des agences immobilières. Et tu as plus de la moitié des gens qui sont des reconversions.
Et qui sont des reconversions que toi, tu recrutes alors qu'ils n'ont jamais travaillé dans l'immobilier.
Exactement.
Donc c'est toi qui es acteur de la reconversion de ces gens-là.
Qui ont des parcours super intéressants, super enrichissants. Qui était dans le marketing, qui était trader ou sales dans la finance. On a vraiment des gens qui viennent d'un peu partout.
Et c'est quoi les qualités que tu recherches alors, et qui seront encore plus vraies, justement, le plus intéressant, c'est plutôt d'étudier les 50% qui ne viennent pas de l'immobilier. Oui. Qu'est-ce que tu essayes de détecter chez quelqu'un qui ne vient pas et pour te projeter, de dire tiens, lui, il a ce que je recherche et du coup, il va être bon.
Ce qu'on regarde, c'est une tête bien faite. Parce qu'on fait quand même un métier qui est de plus en plus complexe et rapide.
Donc, ça, c'est côté organisationnel.
Côté organisationnel, c'est très digitalisé. Il y a beaucoup d'informations. On fait du B2C. Donc, nous, on n'a pas un gros compte client qu'on gère, tu vois, comme dans le B2B. On a 200 acheteurs qu'on gère d'un côté, 70 biens de l'autre, à un instant donné, dans une zone donnée. Donc, c'est énormément de flux d'informations, énormément de choses à gérer. Donc on a besoin d'avoir des gens qui vont être rapides.
Et comment tu le détectes ou quelles expériences font que ça marche bien?
Non, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a, notamment des gens qui viennent de grands groupes dans le marketing, de groupes de luxe. Ce sont des gens qui ont plutôt des facilités chez nous parce qu'ils ont été habitués à avoir du process. Donc c'est une facilité pour eux par rapport à des agents immobiliers qui viennent de l'immobilier et qui sont là depuis longtemps, où c'était un peu plus comme as you are, tu vois, on se balade.
Parce qu'il y a beaucoup de process chez vous?
Parce qu'il y a des process internes, ouais. Il y a des process. De manière générale, c'est un métier complexe. Hein. Tu as un aspect commercial très important, mais ensuite, on a des biens à vendre. Donc sur les biens à vendre, il y a plein de sujets juridiques, d'urbanisme qui rentre en compte. Il y a ensuite de la négociation, il y a tout l'aspect vente derrière. Donc c'est assez complexe. C'est assez complexe.
Et donc après, et les gens quand ils postulent, c'est quoi le parcours justement s'ils n'ont pas fait d'immobilier du tout? Vous regardez le CV.
On regarde le CV. On cherche des têtes bien faites. On cherche des gens qui. Alors nous, notre réputation et ce qu'on dégage, et je crois qu'il y a la réalité, c'est qu'on est. Une boîte dans laquelle il y a une bonne ambiance, dans laquelle c'est bienveillant. Alors, je sais que le mot est un peu galvaudé.
Oui, mais c'est que tout le monde recherche quand même.
Voilà, mais c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a, on va avoir tendance à avoir des gens qui cherchent ça, qui vont venir chez nous. Par exemple, des gens de l'immobilier qui viennent d'endroits où c'est un peu la guerre, c'est chacun pour soi, tout le monde se tire dans les pattes, et qui ont du mal avec ça. Alors, il y en a qui vivent très bien avec, il y en a d'autres qui ne sont pas à l'aise avec ça, et qui ils vont trouver chez nous un environnement où on collabore, on travaille ensemble, où on peut dire les choses. Ou si on part 5 minutes aux toilettes, il n'y a pas quelqu'un derrière qui va essayer de te piquer ton client. Enfin, un travail collaboratif qui est lié aussi, et c'est peut-être très important de le préciser, au fait que nous, on est une des rares entreprises dans l'immobilier à avoir des gens qui sont salariés.
C'est ce que tu disais, versus les mandataires ou...
Alors, versus les mandataires, c'est une chose, mais même la plupart des agences immobilières physiques à Paris, dedans, ce sont des agents commerciaux indépendants.
Okay.
Donc un agent commercial, c'est quelqu'un qui, en théorie, alors en pratique, quasiment aucune agence de Paris ne respecte la loi, mais ça aussi c'est un sujet de syndicat. Parce qu'un agent commercial, c'est quelqu'un qui n'a pas de relation de subordination, qui apporte son propre business. Ce qui se passe, et donc c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut en fait. Si demain il veut partir en vacances pendant 15 jours, il part en vacances pendant 15 jours et son employeur, enfin c'est même pas un employeur, c'est son contractant, ne peut rien dire. Le fait est qu'aujourd'hui, la plupart des grandes marques, même dans le luxe à Paris, n'ont que des gens comme ça chez eux. Ce que les consommateurs ne savent pas d'ailleurs. Donc quelqu'un vient chez eux, c'est un négociateur de chez X agence très connue, mais en fait c'est un agent commercial. Donc c'est quelqu'un qui est indépendant en fait, avec une marque sur lui. Donc très peu de contrôle. Donc aussi un état d'esprit qui est assez indépendant. Voilà. Et donc ça favorise pas le... C'est très compliqué pour ces entreprises de favoriser un esprit d'équipe qui est une bonne ambiance, parce qu'ils ont un contrôle qui est très limité sur leurs équipes.
Donc toi, en tout cas, ce que ça te permet, parce que j'imagine que pour eux, enfin, évidemment, il y a un côté confortable.
Bah, ça leur coûte rien. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de salaire. Donc si la personne fait des ventes, bah, il touche une commission. Mais voilà, s'il ne fait pas de ventes, elle ne coûte rien. Donc c'est purement opportunisme financier pour les entreprises qui embauchent ces gens-là. C'est tout.
Et pourquoi tu ne le fais pas? Ou un peu, tu pourrais faire de l'hybride peut-être.
Non, salariés, je ne crois pas du tout à ça.
Ouais.
Je ne le fais pas parce que ce n'est pas du tout dans notre conception du métier tel qu'on le fait. Nous, on se voit comme une vraie entreprise avec des gens qui travaillent ensemble et avec une organisation. Et tout ça n'est pas compatible avec le fait d'avoir un agrégat d'indépendants. Et on ne pourrait pas faire les deux parce que les deux ensemble ne vont pas, parce que tu vas créer une distorsion. Entre des gens qui vont avoir un mode de fonctionnement et puis d'autres qui vont avoir un fonctionnement différent au sein d'une même structure, c'est impossible. C'est pas souhaitable. On l'a fait au niveau local à certains endroits pour X raisons.
Bah parce que j'ai vu, t'as peut-être fait des tests ou t'as
voilà,
vu les
on
choses.
On a testé sur des micro-endroits et c'est pas possible. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas réussi à faire fonctionner les deux ensemble et ça nous semble pas pertinent.
Et comment tu fais pour garantir justement, encore une fois, que vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui?
On est 105, je crois, une centaine.
Et comment tu fais pour garantir qu'ils travaillent en respectant tes principes?
Bah, écoute, d'abord, on travaille et de plus en plus sur la formation pour qu'on ait des collaborateurs qui aient un vrai bagage. Ensuite de ça, on est très structuré parce qu'on a dans chaque agence, entre 5 et 7 personnes. Dans chaque agence, tu as donc 5 négociateurs et tu as un directeur manager qui contrôle et qui est garant du bon fonctionnement de l'agence à tout point de vue. Et au-dessus de ça, tu as aussi un directeur commercial qui manage ces directeurs d'agence. Donc on a plein de niveaux de contrôle. Mais tout ça étant dit, moi je crois que, alors ça, on touche à la culture d'entreprise, on touche au recrutement. T'as beau mettre ça en place, si les gens qui sont venus à toi ne sont pas animés par cette idée de déontologie, ça va pas marcher. Je crois que ce qui fait que ça marche à peu près, et qu'on a une homogénéité dans la façon dont les gens travaillent chez nous en termes de déontologie, c'est que d'abord on attire plutôt des gens comme ça. Ensuite, quand on les recrute, je crois que c'est une des choses que l'on dit immédiatement et qui est très claire, c'est que le moindre virage dans le mauvais sens, en fait, les gens ne resteront pas chez nous. Et d'ailleurs, il nous est arrivé de se séparer de gens qui étaient des gros performeurs, qui faisaient beaucoup de chiffre d'affaires, et qu'on n'a pas gardé chez Juno parce qu'ils ont dévié. Donc je crois que les gens sont conscients chez nous que des pratiques qui peuvent être communes dans certains endroits sont inacceptables au sein de Juno. Et ça, c'est...
Parce que pour toi, c'est un risque business ?
Non, parce que je n'ai pas envie de travailler comme ça. Bah, évidemment que c'est un risque business, j'en sais rien, puisque je vois des gens...
Bah, tu te dis, s'il y en a qui commencent à le faire, on va peut-être justement perdre notre réputation d'être très éthique, déontologique, et donc on perdra des clients.
Non, je ne réfléchis pas comme ça, en fait. Okay. Je suis beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire que je n'ai pas envie que ça se passe comme ça. Enfin, tu vois, c'est pas... Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, tu as des gens qui sont très malhonnêtes et qui marchent plutôt bien. Donc, c'est possible. Mais moi, j'ai pas envie de faire ça comme ça. Je sais pas, c'est une question de... Je sais pas comment... C'est pas calculé. Je me dis pas, tiens, il faut qu'on fasse ça pour avoir une belle image et machin. C'est que ça me paraît impensable, quoi. Je fais pas ce métier, je me lève pas tous les jours pour avoir des gens qui sont des petits voyous qui vont arnaquer au coin du bois le vendeur pour récupérer une commission. C'est impossible pour moi.
Okay. Et du coup, la formation, ça se passe comment ? Est-ce que c'est... Alors, dès le recrutement, déjà, vous parlez de cette déontologie et de si tu continues, mon coco, t'as intérêt à respecter nos valeurs, parce que sinon, on arrête tout de suite.
Ah bah ça, c'est dit tout de suite.
Et après,
tout est écrit.
Une fois qu'ils sont arrivés...
Ouais, alors, tout est écrit chez nous. Il y a voilà, tout ce qui est... toutes les règles. Voilà, c'est un peu ça. Les 10 commandements, il y en a plus que ça, mais tout est écrit. Donc, il y a vraiment une Bible sur les moments principaux et qui sont vraiment écrits noir sur blanc. Et c'est d'ailleurs écrit dans certains trucs, si c'est pas respecté, c'est un motif à licenciement.
Okay.
C'est clair. Voilà. Et puis après, d'où l'importance aussi de grandir à un rythme soutenu. Mais on fait beaucoup, nous, il y a un peu 50-50, mais il y a quand même une grande partie de nos directeurs qui sont d'anciens négociateurs, avec qui moi j'ai travaillé quotidiennement pendant pas mal d'années. Et donc, cet état d'esprit d'entreprise, cette culture d'entreprise, elle se transmet aussi par ses représentants et donc par ces gens qui sont avec nous depuis longtemps, qui adhèrent à nos valeurs, qui sont d'ailleurs des garde-fous de nos valeurs, parce que parfois on est challengé et puis on se dit tiens, on va faire ça, mais et puis il y a des gens à l'intérieur qui disent non, mais on ne peut pas faire ça parce que ça ne respecte pas exactement notre truc. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et voilà, et ce sont surtout ces gens-là qui, en interne, vont faire que on va être irréprochable et on va apporter un service de grande qualité à nos clients en transparence.
Tu recrutes est-ce que vous recrutez aujourd'hui chez Juno ?
Oui, on recrute aujourd'hui chez Juno. On recrute tout le temps, même en dépit du confinement et du Covid. On a d'abord un fonds de turnover qui est assez faible chez nous, mais qui est quand même existant, donc on a toujours quelqu'un qui prend sa retraite ou qui part en province. On a toujours un fonds de roulement. Et puis, on continue surtout à... Alors, on a fait grandir nos équipes commerciales, quand même, depuis quelques années. On continue à les étoffer, parce qu'il y a un marché.
Parce que, du coup, les équipes commerciales, elles font quoi ?
Commerciales, c'est les négociateurs.
D'accord. Ah oui, en agence, quoi.
Voilà, négociateurs en agence, vente ou location, mais c'est les négociateurs en agence.
OK.
Donc, les équipes commerciales, on les étoffe progressivement. Et par ailleurs, au siège, c'est vrai que notre métier, nous, au siège, c'est d'aider nos collaborateurs sur le terrain. C'est normal.
Support.
Et donc, les équipes support, elles sont déjà très importantes chez Juno dans ce qui se fait dans le métier.
Donc, c'est 15 personnes
à peu près,
au siège.
Oui,
et donc, les 85,
exactement.
90
exactement.
Qui sont dans les agences.
Et donc, on a quelqu'un qui s'occupe des datas, on a des gens qui sont en support des commerciaux, on a des gens en marketing, on a une directrice des ressources humaines, un certain nombre de postes, supports qu'on étoffe au fur et à mesure. Et donc, on recrute aussi pour ça pas mal. Marketing.
Qu'est-ce que tu aimerais comme compétence, peut-être que tu trouves plus difficilement ?
Tu veux dire en équipe support ou
ouais, en équipe support. Bah après, j'imagine que dans les agences, comme tu disais, il y a ce côté
Déjà, positionnement, plus tout cet aspect bienveillant qui fait que les gens, j'imagine, et puis de recruter en CDI, quoi. Alors, en plus, en ce moment, déjà, avant, si vous donniez envie aux gens indépendants de vous rejoindre, là, ça doit être peut-être encore plus maintenant.
Oui, on a ressenti très clairement, depuis plusieurs mois, j'avoue que je ne sais pas combien de candidatures on reçoit chaque jour, mais on en reçoit beaucoup. Après, on est très, très sélectif, donc ça prend quand même du temps. Mais c'est vrai qu'on a ressenti clairement depuis quelques mois...
Ils sont fatigués au RH.
Oui, au RH, ils sont épuisés.
Gros afflux. Et après, donc souvent, c'est ça, c'est que tu as le cœur de métier, donc là, qui est très visible pour les candidats. Ils savent très bien que si tu viens chez Juno, tu pourras faire de l'immobilier, mais parfois moins sur d'autres métiers... support, typiquement, je sais pas, data, ce que tu entends par là, ou je sais pas, sur du marketing, peut-être qu'il y a des expertises que tu recherches qui sont
on a des problématiques, en gros, on a des problématiques de start-up qui a grossi, quoi. Donc, on a besoin de gens qui s'occupent des data, on a besoin de gens qui s'occupent de structurer le CRM, de structurer l'organisation. On a besoin de gens aussi au marketing, sur le marketing digital. On a déjà du monde, mais on va avoir besoin de grandir.
Donc. Et ça, pour structurer l'organisation, tu vois ça comme un poste. Donc, tu vois ça comme quelqu'un de plus senior qui arriverait avec une organisation peut-être plus grande et plus structurée et qui vous l'apporterait sur une fonction.
C'est vrai que pour nous, on est à un stade où... alors d'ailleurs, moi, j'ai un peu dans cette idée-là, il y a 2 ans et demi, j'ai fait un executive MBA à l'ESCP. Justement pour ça, parce que j'ai travaillé brièvement chez CBRE, qui est une boîte d'immobilier, puis un peu à Londres. J'ai tout de suite commencé à travailler chez Juno, chez moi, quoi. Et à un moment, comme on grandissait, je me suis dit, j'ai besoin... Alors, j'échange avec pas mal de gens, et dans le métier ou ailleurs, mais je me suis dit, tiens, j'ai besoin de voir ce qui se passe ailleurs et d'échanger avec des gens qui sont dans des grosses structures et qui ont connu les problématiques qu'on a eues. D'où l'executive MBA qui a duré
un an. Vous allez avoir.
Executive MBA qui a duré 1 an et demi, qui a été très intéressant. Et en effet, on est à un stade de développement où on a besoin de gens qui ne sont pas forcément dans l'immobilier. Et on a besoin de gens qui viennent de structures un peu plus grandes pour nous apporter... on ne réinvente pas le filet couper le beurre, quoi. Qu'on bénéficie d'expériences de gens qui ont déjà, qui sont passés déjà par les stades que l'on vit aujourd'hui.
Okay. Et ça, à quel poste, par exemple ? T'aimerais, là, demain, hop, tu peux en faire entrer un ?
Non, écoute, je ne sais pas. En plus, c'est quoi, on dit quoi ? CEO ? Chief Operating Officer ?
Ouais, directeur des opérations.
Directeur des opérations, voilà.
Ce serait avoir un bras droit sur qui serait le patron des directeurs commerciaux ?
Oui, et qui aurait surtout cette fonction de structuration, d'encadrement. Ouais. Pas forcément sur l'aspect commercial, parce que c'est vrai qu'on a des gens extrêmement talentueux chez nous et qui font ce métier depuis des années et qui sont, je pense, les mieux à même de travailler sur l'aspect commercial pur. Après, sur l'aspect organisationnel, CRM, data, c'est une compétence différente.
Ça, sur le côté transformation des profils. Mais évidemment... mais après, ça pourrait être tout un épisode. On verra. Mais sur le côté comment tu emmènes les gens, comment tu formes, et en concret, ce qui fait, c'est les directeurs. Vous avez des gens, vous prenez des experts dans tout le réseau, et toi, tu es juste commercial, mais tu deviens quand même expert requin parce que tu es un super requin.
Ça, c'est le projet, mais pour l'instant, c'est pas encore... Je rêverais qu'on ait ça. Oups. Identifié. Des champions, bien sûr.
Après, les formateurs, de toute façon, c'est comme, je sais pas, mais c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et t'as des gens qui peuvent être simples agents, mais qui peuvent être des super formateurs.
Pardon, on n'a pas parlé d'une chose fondamentale, c'est que tu me demandais les recrutements. Un des recrutements clés en ce moment chez nous, ouvert, c'est un formateur. Voilà. Donc, on cherche aujourd'hui quelqu'un qui ne vienne pas d'ailleurs forcément de l'immobilier, qui peut venir d'un autre monde qui sera quand même assez commercial, mais on cherche aujourd'hui un formateur full-time chez Juno pour accompagner nos équipes au quotidien, en plus des managers, en plus du directeur commercial. Donc ça, c'est un recrutement qui est complètement actif et assez urgent.
Merci Sébastien.
Merci beaucoup pour cette interview.
À bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Lois de l'Attraction. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode qui promet d'être passionnant. Si vous êtes sur Apple Podcast, je vous invite à mettre 5 étoiles, ce serait vivement apprécié. Si vous souhaitez participer à ce podcast, me suggérer un invité ou me faire vos remarques, écrivez-moi sur fx@yessir.fr, fx@yessir.fr. À très bientôt dans les lois de l'attraction.